Bonsoir, bonne semaine à tous. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, deux ans jour pour jour depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC comme chef de l'État. Ferdinand Kambere, membre du FCC, estime que la gouvernance de l'UDPS est catastrophique. Ceci est caractérisé, d'après lui, par le non-respect des textes réglementaires de la RDC, ce qui représente une menace pour la jeune démocratie congolaise. Augustin Kabuya de l'UDPS pense pour sa part que si le programme du chef de l'État n'a pas été appliqué comme il le voulait, c'est essentiellement à cause des blocages et des dysfonctionnements liés à la coalition FCC-CACH. Quel bilan dressez-vous de la gouvernance de Félix Tshisekedi sur le plan politique, sécuritaire et socio-économique? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 janvier 2021. Participe au débat professeur Jean-Claude Chilumbaï, député provincial et cadre du parti politique UDPS, parti membre de la plateforme CACH. Professeur Chilumbaï, bonsoir. La réalisation me signale qu'on a perdu le professeur Chilumbaï. On va essayer de le recontacter. Maître Ferdinand Kambere, avocat, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Maître Kambere, bonsoir.
Oui, bonsoir, Madame Kelly.
Et Maître Blanchard Mongomba, il est avocat et secrétaire général du parti politique Nouvel Élan, parti membre de la coalition Lamouka. Maître Blanchard, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly Kouté.
Vous êtes nombreux auditeurs de Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Un jour dans mon histoire qui dit ceci: le bilan de ces deux années est négatif, le pays en insécurité généralisée, trop de promesses mais rien de concret. Justin Dalico, le bilan du président devrait être jugé à partir de la rupture entre FCC et CACH. Avant ce temps, il était bloqué par les kabilistes. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Ce 24 janvier 2021, le président Félix Tshisekedi a totalisé deux ans depuis qu'il a été investi cinquième président de la RDC. Il a succédé ainsi à Joseph Kabila après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. La cérémonie de passation de pouvoir entre le président Joseph Kabila et son successeur s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa, bureau officiel du président de la République. C'était le premier transfert pacifique du pouvoir dans le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. Dona Madimba.
Dans son discours à cette occasion, le cinquième président de la République démocratique du Congo avait annoncé la libération de tous les prisonniers politiques, le rétablissement de l'autorité de l'État, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la pacification du territoire national par l'éradication des groupes armés. Félix Tshisekedi avait promis aussi de centrer son action sur la lutte contre la pauvreté et œuvrer pour la consolidation d'un État de droit. Un autre engagement de Félix Tshisekedi était de combattre la mauvaise gouvernance, de promouvoir le développement du tourisme et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Comme bilan des 24 premiers mois du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, Ferdinand Kambere, membre du FCC, estime que la gouvernance de l'UDPS est catastrophique. Ceci est caractérisé, d'après lui, par le non-respect des textes réglementaires de la RDC, ce qui représente une menace pour la jeune démocratie congolaise, ajoute le député Kambere. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, pense pour sa part que si le programme du chef de l'État n'a pas été appliqué comme il le voulait, c'est essentiellement à cause des blocages et des dysfonctionnements liés à la cohabitation FCC-CACH.
Professeur Jean-Claude Chilumbaï, bonsoir.
Madame.
Député provincial et cadre du parti politique UDPS, parti membre de la plateforme CACH, deux ans jour pour jour depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC comme chef de l'État. De façon globale, comment vous jugez son bilan à la tête du pays?
C'est un bilan à mi-parcours. Ça fait deux ans, vous l'avez dit. Il était question de prendre connaissance des dossiers, de s'engager sur le programme, combien ambitieux que le chef de l'État avait présenté aux Congolais. Bien sûr, avec certaines embûches sur lesquelles nous allons revenir. Mais il faut dire qu'à ce niveau ici, tout observateur correct et juste peut constater que les résultats sont appréciables au plan de notre souveraineté. Vous avez vous-même constaté que le président Tshisekedi a pris le pouvoir dans un contexte d'embargo total sur l'État et que c'est ce pays qui n'avait plus aucune considération vis-à-vis de l'extérieur ou chez les autres et qu'il a remis sur les selles de la scène internationale par une diplomatie hautement agissante. Et qu'à ce jour, nous sommes un pays totalement respecté, un pays qui a retrouvé sa place de choix dans le concert des nations. Au plan sécuritaire, vous le savez, il y a eu une période avant son arrivée au pouvoir où c'est chaque jour qu'il s'est créé une cinquantaine de groupes armés et qu'à ce jour, c'est chaque jour qu'ils se rendent par centaines. Nous avons été à une période où il arrivait au pouvoir, des centaines de milliers de groupes armés dans l'Est, dans le Sud, dans le Kassai et partout. À ce jour, la paix a été totalement rétablie dans le Kassai et que la situation est totalement sous contrôle de l'État. Et dans l'Est, c'est chaque jour que de nombreux groupes armés se rendent. Et sur le plan sanitaire, social, disons, le président Tshisekedi a hérité d'une épidémie sauvage, d'une épidémie qui ravageait terriblement les provinces de l'Est et l'Équateur, entre autres, l'Ebola. À ce jour, la maladie a été totalement déclarée éradiquée, qu'il n'en reste plus rien et que ça, c'est un autre bilan que tout le monde ne peut qu'observer. La gratuité de l'enseignement qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école et à des centaines de milliers d'enseignants qui sont restés en service pendant plus de 20 ans impayés, qui ont été mécanisés et payés et que de nombreuses familles ont retrouvé le sourire à part quelques soucis dans la ville de Kinshasa et un peu dans quelques écoles de la ville de Lubumbashi. Ça, c'est une réalité, une évidence qu'il faut de toute façon observer.
Pour vous, professeur Tshilumbayi, le bilan est globalement positif.
Il est difficile de dire globalement, c'est un bilan à mi-parcours. Les ambitions et les programmes que le président avait annoncés au début de son mandat relèvent quand même d'une certaine ampleur. Il nécessite un temps pour les apprécier avec efficacité. Mais tout ce qu'il faut observer à ce jour, c'est que les jalons ont été posés. Au plan, par exemple, des droits humains, notre démocratie a été renforcée, les libertés consolidées, les cachots obscurs et clandestins fermés, les procédures sont respectées en matière de détention, il n'y a plus de gens qui passent
plusieurs années
sous la torture.
Plusieurs rapports établissent que pendant ces deux années de Félix Tshisekedi, il y a eu beaucoup de cas de violation des droits de l'homme.
Oui. Il y a eu beaucoup de cas. Nous ne sommes pas, bien évidemment, arrivés au paradis. Mais lorsque vous comparez, c'est un pomme de promesse, vous comparez ces cas de violation, vous allez constater que c'est presque n'ayant par rapport à la période d'avant lui, où tous les cachots de la mer étaient pleins de personnes non jugées, de personnes jamais entendues par un magistrat, par un juge, qui étaient tout le temps et chaque jour soumis à des tortures, à des traitements cruels, inhumains et dégradants, ce qui n'est plus le cas à ce jour. Toute personne arrêtée et en vertu de l'article 18 de notre Constitution placée devant son juge immédiatement et entendue, jugée, et cela est constaté même dans d'autres domaines de la vie. La liberté d'expression s'est largement étendue et que des personnes peuvent à nouveau circuler, s'exprimer. On ne fouille plus les téléphones sur le croisement de Victoire pour chercher qui insulte le président de la République, qui a parlé du mal de la femme du président de la République. Les Congolais se sentent de plus en plus dans leur pays et chez eux. La justice a été à ce jour renforcé, les juges ont retrouvé leur liberté, les magistrats peuvent à nouveau travailler sans instruction des autorités morales et autres. C'est un pays qui se modernise, une république qui se médiévalise en fait par l'assurance que les populations peuvent trouver les revendications entendues par un dirigeant qui est plus proche d'eux que jamais.
Il y a des auditeurs qui vous suivent, professeur Tshilumbayi, il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, il s'appelle Ougen Mungadjoué, qui nous écrit depuis Kisangani. Lui, il pense que la gratuité de l'enseignement chantée à longueur de journée est non effective. Les nouvelles unités croupissent toujours dans la misère, ajout du barème salarial promis non perçu par les agents de la police et militaire, les sociales connues comme hymne national et calamiteux, l'insécurité est grandissante comme si l'État n'existait pas. en Ituri et dans le Grand Nord la politique d'arrestation arbitraire comme moyen usuel pour tromper les gens que l'état de droit existe. Bref, rien n'a marché durant ces deux années. Au lieu de travailler, le régime en place se met à créer des crises politiques qui entravent le vrai déroulement des institutions en place.
Ce n'est pas très sincère, madame. La gratuité de l'enseignement. D'abord, il faut dire que les enseignants, non seulement que ces nouvelles unités avaient été payées, pas tous, il faut le reconnaître, c'était des centaines de milliers, et que c'est des gens qui sont restés pendant 20 ans impayés alors qu'ils ont continué de prester. Personne n'était mécanisé, mais sur les 2 ans, on a atteint les 130 000 unités, nouvelles unités mécanisées, non seulement mécanisées. Les enseignants ont vu leur salaire être presque triplé, pas seulement au primaire, mais les enseignants dans l'ensemble, y compris au secondaire, où ce principe de gratuité de l'enseignement n'est pas constitutionnel. Et lorsqu'il y a des gens qui se rendent coupables de violations graves des droits de l'homme, qui se rendent coupables des injures publiques, parmi eux les journalistes, qui se rendent coupables de diffamation, la loi protège chacun. Il est de bon aloi que celui qui se sent vexé se plaigne et qu'il n'est pas question là d'inscrire dans le moule des arrestations arbitraires. Il faut comprendre ce qu'on entend par arrestation arbitraire. C'est pas lorsqu'on va se rouer sur quelqu'un et sur les intimités des gens et manquer de la considération aux parents, aux responsables, par des injures, par des calomnies, qu'on se dirait protégé par l'état de droit. Ce n'est pas cela l'état de droit. Les cas précis de Ituri que vous évoquez, moi j'ai dit que effectivement les conflits armés ne sont pas terminés dans l'Est, mais ce qui est vrai c'est que un grand effort est fourni par rapport à la période il y a 2 ans. J'ai insisté que c'est chaque jour qu'une centaine de groupes armés s'est créé dans ce pays et dans tous les coins du pays. Qu'à ce jour le Kasaï est totalement pacifié, le Katanga est presque totalement pacifié, et les points qui se passent dans l'Est révèlent d'ailleurs de la grande volonté du chef de l'État, de l'engagement qu'il a souscrit avec nous, que chaque jour les groupes sont en train d'être défaits et l'effort est énorme à ce niveau-là. Il n'y a pas de crainte à avoir. Et nous sommes à 2 ans. Il faut reconnaître que les programmes aussi ambitieux que la gratuité de l'enseignement ne sont pas des choses qui devaient se faire en une année.
Il y a Patrick qui nous écrit depuis Kolwezi, qui pense que sur le plan sécuritaire, la situation ne s'améliore pas, d'autant plus que le président ne s'attaque pas aux causes qui sont à la base de l'insécurité persistante dans la partie orientale du pays. Et sur le plan socio-économique, les multiples promesses du chef de l'État restent sans suite. Le social du Congolais se dégrade chaque jour davantage. Le gouvernement incapable de mobiliser suffisamment de moyens pour financer les projets de développement.
Bien évidemment, c'est là que j'ai dit qu'il y avait des pesanteurs. Il y a des pesanteurs qui sont en train d'être rencontrés à ce jour. Nous avons travaillé ce mandat avec un gouvernement qui n'était pas celui en réalité du président Tshisekedi, qui était un gouvernement d'une coalition qui le dirigeait à presque 80% ou 70%, qui a souhaité imposer ses pratiques du passé. Ça a nécessité du temps pour qu'on puisse réellement s'en défaire et voir comment orienter le pays sur une vision unique, une vision consensuelle avec tout le monde afin qu'on puisse aller de l'avant. Ce n'est pas en fait ça qui peut aveugler les gens jusqu'à ne rien comprendre et observer de grandes réalisations qui ont été faites en cette matière-là. La question de l'insécurité de l'Est, il faut reconnaître une chose. C'est des guerres créées qui sont des guerres d'intérêt, des guerres business et qui ont été entretenues pendant 20 ans par, il faut le reconnaître, y compris avec la complicité du système en place, et que c'est des choses qui ne pouvaient pas, quelle que soit la magie, être réglées en une semaine ou en une année. Mais il faut noter le grand effort qui est entrepris à ce jour pour que cette guerre cesse. Le président de la République a donné sa parole et son engagement est visible. Cette guerre va prendre fin avant la fin de ce mandat.
Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, comment vous réagissez au propos de Maître Kambere, qui est d'ailleurs avec nous dans ces débats, qui estime que la gouvernance de l'UDPS est catastrophique?
Je connais un peu cette rhétorique de Maître Kambere, bien que souvent il n'aime pas qu'on compare cette gouvernance de l'UDPS à celle des enlèvements, des tortures, à celle des pillages systématiques de la GECAMINE et des entreprises qui avaient été totalement privatisées. Il n'aime pas souvent que l'on compare cette gestion de l'UDPS à celle de la SNCC qui a été mise à genoux, de l'ANIBA qui est laissée totalement faillite alors qu'elle était allée rentrer au pouvoir le poumon de l'économie nationale en cette période difficile. Il ne veut pas que l'on compare cette gestion de l'UDPS à celle de 20 ans passés ou de 22 ans sinon, qui a fait que notre enseignement soit mis à genoux parce que tous les venants du PPRD, plutôt de l'AFDEL, avaient besoin de diplômes et de les avoir au prix de l'argent, qui ont rendu notre université presque nulle. Il ne veut pas que l'on compare cette gestion à celle où chacun d'entre eux avait un groupe armé, l'entretenait et exploitait anarchiquement. Le Congo, en fait, était non-État, un lieu de non-droit, parce que lui ne veut pas que l'on compare ça.
Merci. Professeur, on vous garde encore dans cette émission. Maître Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo. Vous estimez que la gouvernance de l'UDPS est catastrophique. Donc, pour vous, il n'y a aucun point positif à saluer pendant ces deux années du président Félix Tshisekedi.
Merci, Kelly. Je crois que ce tableau que nous sommes en train de peindre vient d'être d'ailleurs mieux peint par vos auditeurs qui ont acquis mon co-débatteur, le professeur Chilumbaï. Et je crois que ce n'est donc pas toujours à se décharger sur ce qu'il appelle toujours les 18 ans de l'ancien régime qui va les dédouaner de 2 ans. Maintenant, on est en train d'évaluer les 2 ans. Les 18 ans, c'était lorsque nous avions présenté un candidat et que sur base de tout ce qui était fait comme évaluation, ces élections sont déjà passées. Ici, on est en train d'évaluer les 2 ans. Et comme repère, c'est l'alternance démocratique et pacifique dont ils sont bénéficiaires. Il faut partir d'abord de là. Le repère, c'est les promesses, les nombreuses promesses faites par les présidents de la République. Parce qu'avec cette alternance, quand même, les espoirs des Congolais étaient légitimes, étaient refondés. Tout le monde a su que les efforts déjà réalisés par Joseph Kabila pour réunifier le pays, pour refonder le pays, parce qu'il lui a donné quand même la constitution grâce à cet accord global et inclusif de Sand City, il lui a donné quand même cette constitution du 18 février 2006, qu'il est donc étonnant aujourd'hui que quelqu'un qui a prêté quand même serment sur base de cette constitution, il oublie tout complètement de ce qui est dit dans la Constitution, parce que ce qui est dit dans la Constitution à son exposé des motifs, c'est que partant de 1960, les crises politiques récurrentes dans notre pays, qui n'avaient que comme autre cause la contestation de légitimité des autorités et des institutions, qu'il fallait une constitution pour créer un nouvel ordre politique. Aujourd'hui, quelqu'un bénéficiait d'une alternance, un président qui vient quand même de l'opposition et qui se vante des 38 ans de lutte pour la démocratie, qu'aujourd'hui s'assoit à son cheval de bataille de prendre comme postille la violation systématique de la constitution. Je suis étonné lorsque mon ami et frère Chilumbaï, lorsqu'il dresse les bilans que lui-même ne s'est pas qualifié sur le plan de souveraineté, et qu'il dise que avant qu'il n'arrive, ce pays était désaxé par rapport à l'orbite des autres États.
C'est une erreur
de ne pas reconnaître à Joseph Kabila Kabange les efforts qu'il a fait pour réunifier ce pays, pour reconstruire, pour refonder, lui donner un ordre politique nouveau. Et c'est cet ordre politique nouveau qui est même protégé dans la Constitution, parce que toute tentative de renversement de ces régimes-là est érigée en infraction de haute trahison dans notre pays. Même sous le plan sécuritaire, mon ami vous dit que chaque jour, il y avait 100 groupes armés qui se créaient. Et quand vous multipliez 100 groupes armés multipliés par 365 jours, vous allez voir que c'est 36 500 groupes armés. Vous multipliez par 18 ans, donc lui veut nous dire qu'il a trouvé, en entrant au pouvoir, plus ou moins 500 000 groupes armés à l'est du pays.
C'était peut-être une façon de parler.
Il faut quand même être honnête qu'il y a eu des efforts à faire, les tentatives de M23 pour vouloir rééditer la guerre à l'est, alors qu'il y avait déjà l'accord de San Suu, alors qu'il y avait les accords de Nairobi. Et que c'est
pour replonger
le pays dans la guerre ont été anéantis, et c'était par Joseph Kabila Kabange. La guerre qui reprend à Beni, c'est simplement en 2014 par les EDF Nalu qui ont évidemment plusieurs facettes là-dedans.
Maître Kambéré.
Le bilan sur le plan social, n'en parlons même pas. Le bilan sur le plan des droits humains, combien croupissent en prison simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont en prison, des procès en cascade organisés pour flagrance, là où il n'y a même pas de flagrance, des procès de nuit. On est en train de les vivre, un pasteur simplement dans un sermon où il interpelle les autorités par rapport à la cohésion nationale, qui sont condamnés comme ça à 10 ans de prison.
Ne faut-il pas reconnaître que pendant ces 2 ans de Félix à la tête de la RDC, il y a eu beaucoup de groupes armés qui se sont quand même rendus?
C'est ce que nous disons maintenant. C'est parce que lui, il parlait de 18 ans. Mais nous, on déplore parce que le fait que, au moins, tout ce qu'il y avait comme prétexte de l'autre fois, que c'est parce que Kabila doit partir, qu'il fallait que les gens créent des groupes de pression, des groupes citoyens, mouvements citoyens, il y avait des groupes de pression dans ce sens où d'autres groupes se sont créés en désordre. Mais qu'après l'alternance, cela ne se justifiait plus. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu, comme vous le dites, que Codeco René, c'est dans l'Ituri, et il massacre les gens, décapite les gens. Il ne peut pas citer que les Kassaï. Il faut voir aussi ce qui est né pendant les 2 ans ici.
Alors, il y a
appris aussi des experts des Nations Unies qu'il y a eu quand même des accords clandestins sur la défense entre notre pays et le Rwanda, sans que le Parlement le sache. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une pression? Voilà pourquoi nous disons que c'est une gestion catastrophique, qu'il y a une pression sur le Parlement pour que ce Parlement, en tant qu'institution, ne fonctionne plus normalement, pour qu'il pose toutes ces questions aux dirigeants. Est-ce que c'est cela qu'aujourd'hui, madame, sur le plan politique, quand on voit un bureau d'âge s'arroger des prérogatives qui ne sont même pas ses prérogatives et commencer à convoquer un premier ministre en fonction et vouloir, sur fond d'une motion fabriquée de toutes pièces, on suit les déclarations qu'il y a, mais nous disons que c'est la catastrophe contre notre constitution, contre notre démocratie.
Il y a Chimbalanga Jean-Claude qui nous écrit depuis Bukavu. Il pense que les 2 années du nouveau régime ne sont pas seulement des luttes d'EPES, mais de la coalition FCC-CACH. Le gouvernement est constitué à plus de 65% des membres du FCC, hormis le premier ministre, chef du gouvernement. Un gouvernement censé accompagner le chef de l'État à accomplir ses promesses grandissime, mais difficilement réalisable soit-elle. Le bilan reste mitigé à mon point de vue. Ferdinand Kambéré ne peut pas parler de la gouvernance UDPS, mais une gouvernance à deux. On se partage l'échec et la réussite. Quant au respect des textes réglementaires qui régissent la République, l'appréciation est bien relative selon qu'on est adepte d'un camp ou d'un autre. Maître Kambéré, brève réaction.
Oui, je dois dire à mon frère Chimalanga qu'il le sait bien que le chef de l'État a prêté le serment le 24 avril, le 24 janvier plutôt 2019, mais que pour former le gouvernement, vous voyez, même quand on a mis un programme de 100 jours, mais ce programme a pris plus ou moins 7 mois, et que pour mettre en place un gouvernement dont il a failli d'État, c'est par le procès Kambéré que nous avons su qu'en réalité, ce programme-là n'était qu'un justificatif des fonds qui sortaient en désordre et qui pouvaient être consommés comme ils veulent. Malheureusement, même les rares qui ont été condamnés ont été graciés. C'est pour nous donner quel exemple. Et finalement, quand on investit Ilunga pour lui laisser travailler, vous avez compris aujourd'hui, c'est des menaces, c'est des chantages où le ministre FCC était menacé d'être viré, où c'est le Parlement qui était menacé d'être dissous, et on est allé dans ça en installant une crise, artificielle, où jusqu'aujourd'hui on est dans ça, où on sent que le président veut travailler seul, il n'a même pas besoin d'autres institutions. S'il y aura institution, il n'y aura que institution que
Merci.
Dans le modèle Union sacrée que nous ne savons pas si c'est quel ordre politique qui n'est pas consacré dans notre constitution, où il sera le seul homme à bord à parler et que les autres vont le regarder pour le suivre.
Maître Blanchard Mongomba, avocat et secrétaire général du parti politique Nouvel Élan, parti membre de la coalition La Mouka. Maître Blanchard, quel bilan dressez-vous de la gestion de Félix Tshisekedi deux ans après, bilan à mi-parcours?
D'abord, madame, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Et pour répondre à votre question, je pense que ma réponse est facilitée déjà par les discours de Monsieur Tshilombo lors de restitution des consultations que lui-même avait organisées. Il a fait, il a peint un tableau sombre dans lequel lui-même il explique que les deux années passées étaient un échec et que pour lui, le travail devait commencer maintenant. Donc là, déjà, Monsieur Tshilombo, lui-même, il a facilité les Congolais à comprendre que les deux années qu'il a passées contre la volonté du peuple congolais à la tête de ces pays, en tout cas, ont été un gâchis total, puisque sur le plan politique, comme vous le savez, donc la crise de légitimité continue à produire ses effets. Parce que aujourd'hui, il suffit de voir les différentes décisions que Monsieur Tshilombo et son pouvoir est en train de prendre. C'est en violation de valeurs républicaines, mais également de principes en la matière. Donc aussi, je veux ici rappeler la toute dernière décision qui a amené justement la Cour constitutionnelle à pouvoir se prononcer sur le pouvoir du bureau provisoire de destituer un premier ministre. Vous sentez déjà que nous sommes en face d'un pouvoir qui s'est inscrit dans la logique de pouvoir bypasser toutes les règles démocratiques alors qu'il se réclame s'être battu pendant 38 ans pour la démocratie. Vous remarquez que ce sont des gens qui se sont engagés dans le sens de bypasser également le principe républicain. Parce que là, non seulement qu'ils ont été institués ou ils sont nés par le fait d'un deal qu'ils ont signé avec M. Kabila, mais en cours de chemin, alors qu'eux-mêmes disaient qu'ils avaient gagné des élections et que par conséquent, le peuple avait décidé d'octroyer la majorité parlementaire à Kabila et la majorité présidentielle à M. Tshilombo, en cours de chemin, ils pensent qu'ils doivent, en tout cas, fomenter un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État politique face à ces peuples qui, eux, disent que leur avait donné cette majorité. Donc, vous comprenez déjà que l'État de droit qu'ils chantent, c'est un échec total, un échec cuisant, parce qu'il n'y a aucune, en tout cas, disposition de la Constitution, moins encore de loi de la République qui sont respectées sur le plan sécuritaire. J'ai entendu ici dire que les groupes armés commencent, en tout cas, à disparaître et tout ça. Mais pour le peuple congolais, je pense que nous ne devons pas nous fier à ces beaux discours en nous faisant, nous laissant entendre que les groupes armés sont en train de se rendre. Nous voulons plutôt écouter les gens qui gouvernent, qui gèrent aujourd'hui, nous dire que voilà les stratégies qui ont été mises en place pour que les Congolais dans cette partie Est ne perdent plus leur vie. Parce qu'au jour le jour, nous continuons à compter de Congolais, le digne fils de ces pays qui continuent à tomber et à laisser, en tout cas, de leur sang dans cette partie. Je veux aller un peu plus loin. Nous avions vu récemment le rapport des experts des Nations Unies qui venait à confirmer que les troupes rwandaises étaient en République démocratique du Congo depuis octobre 2019. Ça veut dire que depuis que M. Tshilombo est au pouvoir, il savait où il était au courant parce qu'il a des services de sécurité, il a des services d'intelligence pour se faire. Mais jusque-là, nous constatons, au lieu de mettre en place les mécanismes pour traquer toutes ces forces négatives et mettre en dehors du territoire national les forces rwandaises qui se sont retrouvées sur le territoire congolais sans passer par le Parlement, nous voyons plutôt l'harmonie, l'amitié entre lui et le président Kagame, le président ougandais, qui sont reconnus comme étant des agresseurs de la République démocratique du Congo.
Maître Mungomba, votre bilan sur le plan socio-économique.
Sur le plan socio-économique, d'abord, il faudrait ici relever que M. Tshilombo, dans son programme, il avait promis de mobiliser, il avait promis un taux de croissance de 25%. Aujourd'hui, je pense que le co-débatteur de l'IDPS va nous dire où est-ce que nous en sommes avec le taux de croissance de 25% qu'ils avaient promis. Ils avaient également promis, en tout cas, la pression fiscale de 25%. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Si nous savons déjà que le prix de cuivre a augmenté, si hier le cuivre, la tonne s'est vendue à 4 000 $, aujourd'hui nous devons reconnaître que la tonne a haussé les prix, ça se vend à près de 7 000 $. Mais malheureusement, jusqu'à ces jours, nous sentons que les budgets, malgré les intentions de M. Tshilombo d'amener les budgets à 11 milliards et consorts, mais sur le plan de la mobilisation, nous avions senti qu'ils sont incapables de mobiliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, en ressources propres, les budgets de notre pays s'élève à plus ou moins 3 milliards 500 millions. Ça prouve à suffisance que sur le plan économique, il y a un échec. Mais à cela, nous ajoutons la corruption. Il avait promis de lutter contre la corruption et la fraude. Mais malheureusement, nous sentons que la corruption et la fraude bat son plein dans l'entourage de M. Tshilombo.
On a vu quand même beaucoup des corrupteurs et des tourneurs de l'argent de l'État se convoquer devant les instances pour être jugés.
Les corrupteurs qui ont été condamnés et après quelques jours, après quelques mois, on les a vus être graciés. Je ne veux pas vous citer ici les cas du DG de l'OVD et le DG de Sokok. Donc, madame, je crois que tout ça, ce sont des procès trompe-l'œil qui n'ont pour finalité de cacher, en tout cas, le système de cache-sexe, de cacher la vraie réalité qui atteste clairement qu'il y a corruption, il y a détournement de deniers publics qui bat son plein, en tout cas dans l'entourage de M. Tshilombo. J'ai entendu le co-débatteur de l'IDPS dire qu'il y a une justice qui commence à travailler. Mais quelle justice? Il peut nous dire quel est le budget que son pouvoir actuel qui gère contre la volonté du peuple congolais alloue à cette justice-là pour que la justice fasse son travail en toute indépendance de
On va vous redonner la parole. On doit prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi. Professeur Tshilombo, on va prendre cet auditeur de Lubumbashi pour vous.
C'est Alfred à Lubumbashi. Le bilan est mitigé. Sur le plan politique, c'est vrai, il a libéré les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Sur le plan sécuritaire, il y a encore beaucoup de choses à faire face à l'insécurité et au massacre de la population à l'est du pays. Sur le plan économique, les problèmes restent encore entiers. Combien d'emplois le président a créé? La gratuité de l'enseignement pose problème, à part quelques sortes de moutons réalisés à Kinshasa. Sur le plan juridique, il y a vraiment non-respect de certains textes et procédures. Voyez-vous même ce qui se passe actuellement. Où avez-vous déjà vu un bureau d'âge provisoire contrôler un gouvernement investi par le bureau définitif et voter des lois? Ça étonne, nulle part ailleurs.
Professeur, brève réaction, s'il vous plaît.
Oui, madame, le bureau d'âge ne contrôle pas le gouvernement. Il n'y a rien qui a mis du sursis sur les pouvoirs inhérents à l'existence d'un parlement en tant que tel. Lorsque Maître Richard parle de prisonniers libérés...
Maître Blanchard.
Maître Blanchard parle de prisonniers libérés. Moi, je ne sais pas comment il a lu... l'ordonnance du président de la République. Cette ordonnance exclut de la manière la plus claire et la plus lisible possible de personnes qui ont été libérées par le gouvernement Inukamba et la motion qui est devant la Chambre de représentants reprend exactement parmi les griefs le fait que le gouvernement Inukamba a libéré ces personnes contre les mesures décrétées par l'ordonnance de grâce du président de la République et on n'a pas demandé des comptes pour cela au président de la République qui, de manière expresse, les a exclus de ces mesures. Ça, c'est un. Lorsqu'on revient à la question économique et que l'on pose en principe que notre budget en termes de ressources propres s'élèverait à 3 milliards 500 millions de dollars, on oublie en même temps. Ici, nous, au moins, on a un justificatif. C'est cette pandémie qui n'a épargné personne et partout, les économies, même les plus stables, sont désarçonnées. Mais les efforts qui ont été menés en cette matière précise sont tout à fait notables. Est-ce qu'on peut nous dire à combien s'est élevé ce budget lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir? J'ai dit bien budget propre. À combien, ou revenu propre, à combien s'est élevé ce budget pour que l'on vienne considérer que 3 milliards 500 millions en pleine pandémie de coronavirus, c'est peu d'argent. Encore qu'il faille là, bien évidemment, noter que ce n'est pas le président de la République qui mobilise les recettes, son gouvernement avec son ministre de Finances, que Maître Camber est décrit comme étant inapte, incapable de mobiliser des recettes, sont bel et bien ceux du FCC et de Maître Camber. Et une façon de nous dire que leurs ministres et leurs premiers ministres qui n'ont rien réalisé méritent exactement le sort qui leur est réservé à ce jour par les élus du peuple.
Maître Camber, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Dieudonné Dioga Goma au Nord Kivu. La déclaration de M. Ferdinand Camber, secrétaire permanent adjoint du PPRD, avec qui le président était en coalition, prouve que cette coalition était une coalition de façade. Comment pouvez-vous appeler cette gestion qu'elle est de l'IDPS pendant que vous étiez majoritaire dans les institutions? Le bilan n'est pas à commenter, d'autant plus que le président lui-même a reconnu l'échec.
Alors, il revient un peu sur ce qu'a dit un autre auditeur de Bukavu tout à l'heure, Maître Camber, juste une brève réaction.
Oui, ça veut dire que, comme lui-même, il revient sur le discours du chef de l'État qui lui-même adressa le bureau, reconnaissait que c'était un bilan négatif. Donc, pourquoi vous voulez que moi, je redore ces bilans que lui-même juge des négatifs?
Négatif à cause du FCC.
Les deux ans, en réalité, la première année, c'est lui-même qui a géré ça sous le programme des 100 jours. Et que même maintenant, lorsque finalement le gouvernement Ilunga est installé, il a eu énormément de difficultés pour fonctionner, tel que ça n'a pas pris le temps pour que déjà le président lui-même dise « je déserte, je ne convoque plus le conseil des ministres », tout le monde le sait, et que les ministres sont restés avec tout ce qu'il y a eu comme pandémie et sa gestion catastrophique aussi, parce qu'il faut le dire aussi, que le partager, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont conscients que c'était leur bilan.
Maître Blanchard Mungomba, on a une réaction pour vous qui nous vient de Chabunda.
Maître Jojo Assani, j'interviens depuis le territoire de Chabunda au sud Kivu. Je suis allé trop vite en besogne, jugé de négatif le bilan du président Félix Tshisekedi au regard des contraintes auxquelles il faisait face à travers son ancien partenaire, entre guillemets, l'FCC. Cependant, il serait mieux que le président Félix Tshisekedi ait un ou deux programmes qui seront réalistes, car en 2023, le peuple congolais ne va pas accorder une quelconque excuse à la classe politique actuelle.
Maître Mungomba.
Je crois que ce n'est pas le peuple congolais qui avait demandé à M. Tshilombo d'appeler M. Kabila partenaire d'alternance. Je crois que ce n'est pas non plus peuple congolais, le peuple qui avait demandé à M. Tshilombo de signer la coalition, ce qu'eux-mêmes ont appelé la coalition avec le FCC. Donc on ne peut pas opposer au peuple la mauvaise gouvernance ou le bilan négatif de M. Tshilombo par le fait qu'il était en coalition. C'est comme si c'est le peuple qui lui avait poussé dans cette coalition. Mais encore quand M. de l'IDPS,
Jean-Claude Tshilombo, le professeur,
parle de la mobilisation de recettes qui se serait fait par le PPRD. Mais ils sont en coalition, ils étaient en coalition. Quand il a fallu faire partir M. Tundawaka Sende, M. Tshilombo n'avait pas attendu un quelconque mot d'ordre de quelqu'un. Il a fait partir. Mais pourquoi est-ce que, en ce qui concerne la mobilisation, il n'arrivait pas à faire partir tout ce monde-là qui bloquait l'action de par rapport à sa vision? Il pose la question sur le budget. Combien était le budget avant que M. Tshilombo n'arrive? Il doit retenir dire que le budget était à hauteur de 3 milliards 400 millions avant que M. Tshilombo n'arrive. Et je peux aller même plus loin. Le budget en ressources propres depuis 2012 s'est levé ou était resté à 3 milliards 500 millions. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'ils ont fait du surplace. Et quand il évoque même le cas de Covid-19, mais les effets économiques de Covid-19 vont se faire sentir pendant cet exercice. L'exercice 2019-2020 n'ont pas été touchés par ces effets de manière directe parce que la mobilisation était censée être faite déjà avant que nous puissions ressentir cela.
Mais alors, je vais vous demander aussi de conclure. Je veux vous demander de conclure, Maître Blanchard.
Mais pourquoi ces personnalités sont aujourd'hui dehors et on ne juge pas ou on ne condamne pas les ministres qui avaient pris l'arrêté pour que ces responsables des entreprises Sokok et OVD soient dehors? Non, je pense que aujourd'hui, le peuple congolais est en train de noter un bilan négatif de M. Tshilombo au-delà de son illégitimité.
Merci, Maître Blanchard Mongomba. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, votre conclusion.
Non, je crois que nous avons noté des progrès notables dans tous les secteurs. Je dis que nous nous sommes battus contre une maladie que le FCC et Adolphe Mouzito nous ont léguée parce que c'était une maladie de leur mandat commun, l'Ebola, que nous avons éradiqué, qui a coûté d'énormes dépenses pour l'État. Nous nous sommes correctement battus contre cette pandémie qui ravage partout au monde et nous avons été félicités partout pour la gestion responsable. En matière de liberté fondamentale, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous avons trouvé plus de 300 prisonniers d'opinion et politique qui ont été libérés et qu'après il n'y en a plus eu. Ceux qui se rendent coupables de leur propre turpitude, des injures publiques, ceux qui se rendent coupables de malaise contre des paisibles citoyens doivent en répondre, c'est ça l'état de droit. Eh bien, l'effort a été notable dans tous les secteurs. La gratuité de l'enseignement, c'est une évidence à 80%. J'ai dit qu'il y a des exceptions liées à la ville de Kinshasa et Lubumbashi qui sont en train d'être...
Vous l'avez déjà dit, professeur. Il faut conclure déjà.
Donc, à ce jour, les institutions de la République font leur travail. La motion, ce n'est pas une affaire du président Tshisekedi, c'est une affaire de député. Il faut que le Premier ministre y réponde que... Il revient au Parlement d'élever les options qu'il faudra. Ce n'est pas une affaire du président Tshisekedi.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Maître Ferdinand Kambere.
Oui, je crois que je vais conclure en disant, même les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent, ils sentent la contradiction déjà dans l'argumentaire de notre ami de l'IDPS. Lorsque, un, il reconnaissait que le bureau d'âge n'a pas compétence de connaître d'une motion, de connaître de contrôle parlementaire, mais qu'à la fin, il dit la motion n'est pas du président, mais que ce sont les députés, il faut que le Premier ministre réponde. Je crois que c'est une contradiction et le chef de l'État, le président, en tant que garant du bon fonctionnement, il est bien dit que ce bilan est largement catastrophique parce qu'il est en train de créer une crise, d'institutionnaliser une crise, alors qu'un pays ne pourra se reconstruire qu'à travers des institutions stables. Ce n'est pas en déstabilisant les institutions à tous les niveaux qu'on peut faire miroiter encore un quelconque espoir à ce peuple meurtri, à ce peuple qui attend des solutions à la sécurité, au social et à l'économie. On ne saura pas le faire à brisant la bonne marche même de la République.
Merci.
Parce que c'était ça la volonté des puissantes cités qu'aujourd'hui, pas la volonté d'un homme parce qu'il a hérité d'un pouvoir démocratique, mais qu'à la fin il veut avoir sa propre conception, mettre en place un ordre nouveau politique.
Merci, mais maître Kambere. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madine, Barcette Goncho qui m'ont aidé dans la préparation de ce magazine. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde, présentation et coordination Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.